Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h21, on ouvre ce soir votre débat du Club des idées sur Europe 1. Et on a choisi aujourd'hui de vous parler d'une femme, qui est au cœur de l'actualité ces derniers jours, Aung San Suu Kyi. Alors on vous parle beaucoup de la Birmanie en ce moment parce que ce qu'il s'y passe est grave. Il y a eu un coup d'État et depuis une répression sévère, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Au cœur de ces événements, il y a donc cette femme au visage angélique qui fut prix Nobel de la paix en 91, qui a passé 15 ans en résidence surveillée, qui est finalement arrivée au pouvoir porteuse d'un immense espoir. Comparée à Nelson Mandela, à Gandhi ou à Martin Luther King, les Birmans comme la communauté internationale l'adulaient. Luc Besson a même tiré un biopic de son histoire, le film The Lady. Sauf que depuis les choses ont changé et c'est cette histoire qu'on va vous raconter ce soir avec mes invités. Frédéric Debomy qui a écrit plusieurs ouvrages sur la Birmanie, qui a rencontré également Aung San Suu Kyi. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Boisseau-Durocher, vous êtes également avec nous, vous êtes chercheuse spécialiste de la Birmanie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Didier François, en studio à mes côtés, spécialiste évidemment des questions internationales à Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
D'abord, est-ce qu'on pourrait se mettre tous d'accord, si vous le voulez bien, sur la prononciation Aung San Suu Kyi, c'est ça ?
Voilà.
Bon, très bien. Alors, pour bien comprendre qui est Aung San Suu Kyi, il faut remonter à son enfance. Elle est la fille d'un général qui a été assassiné en 1947, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son père, c'était un héros de l'indépendance, hein, Frédéric Debomy.
Oui, en fait, pour comprendre le parcours d'Aung San Suu Kyi, effectivement, c'est important de rappeler qui est son père. La Birmanie était une colonie britannique et il y a eu un mouvement d'indépendance avec les 30 camarades, dont Aung San. Et c'est Aung San qui a mené cette lutte et c'est lui qui a signé avec le premier ministre britannique Clement Attlee à l'époque les accords qui allaient mener à l'indépendance. Et Aung San a donc été aux affaires en Birmanie dans une période de transition en 1946-1947, avant d'être assassiné par un rival politique dans des circonstances qui n'ont jamais été complètement élucidées. Et une chose importante qu'avait faite Aung San, c'était la conférence de Panglong, c'est-à-dire réunir autour d'un projet d'État fédéral le groupe birman ou bamar majoritaire dont il était un représentant, et en fait des groupes des minorités. En Birmanie, il y a un tiers de la population qui n'est pas birmane bamar, donc c'est important, ce sont les Chan, les Karen, les Chin, les Kachin, etc., des groupes plus ou moins importants. Et donc, la conférence de Panglong, c'était une volonté de se mettre autour de la table et de préparer ensemble ce qu'allait être le futur État birman. Alors, toutes les minorités n'y étaient pas, les Karen n'y étaient qu'à titre d'observateurs, les Chin, les Chan et les Kachin, eux, participaient. C'était en tout cas un premier pas tout à fait important, et ça reste un acte fondateur, si vous voulez, et qui explique le parcours ultérieur d'Aung San Suu Kyi, qui, dès son entrée en politique, par un discours resté célèbre le 26 août 1988, a mis cette question de la coexistence du groupe majoritaire et des minorités sur la table. Et ça reste en fait la question centrale en Birmanie.
Et on va y revenir, bien sûr. Alors il y a son papa qui a été assassiné quand elle avait 2 ans, et puis il y a sa maman qui était elle aussi une femme engagée, qui est devenue ambassadrice de la Birmanie en Inde. C'est là d'ailleurs qu'Aung San Suu Kyi va poursuivre ses études secondaires à New Delhi avant de partir en Angleterre pour étudier les sciences politiques et la philo. Et là, pendant quelques années, Sophie Boisseau-Durocher, elle va mener finalement une vie de femme tout à fait normale, de femme au foyer, mariée à un universitaire.
Alors, elle est partie en Angleterre effectivement à 18 ans, après avoir obtenu son baccalauréat à Delhi, où sa mère, comme vous venez de le dire, était ambassadrice. Et puis elle part à Oxford. Alors c'est quand même un point important parce que avant de se marier, elle a donc étudié dans cette université prestigieuse. Et je dirais que cette université prestigieuse
à Oxford,
lui a donné
donc, oui.
Oui, à renforcer son complexe de supériorité. Elle est d'une part la fille du héros national et d'autre part, elle étudie dans un des temples du savoir universel. Et donc, il y a là, si vous voulez, elle cultive une sorte d'élitisme très sophistiqué et assez intériorisé. Et puis, elle va rencontrer effectivement son mari à Oxford, qui lui étudie les civilisations tibétaines. Et avant de l'épouser, elle va partir passer 2 ans à New York, où elle va travailler aux Nations Unies. Voilà. Et puis, elle va épouser Michael Harris.
Elle va avoir deux enfants, oui.
Voilà, deux fils, Alexander et Kim. Et puis, elle partira, elle va partager sa vie pendant un moment entre l'Angleterre et le Bhoutan, son mari étant conseiller de la famille royale du Bhoutan. Donc voilà, donc elle a une vie qui est assez particulière, où elle côtoie des gens très intelligents, très sophistiqués, qui cultivent un savoir très, très précis. Et donc, si vous voulez, elle accorde énormément d'importance à toutes les questions d'éducation et d'intelligence.
Et tout ça va nous aider effectivement à mieux comprendre la suite de son parcours. On va se retrouver dans un tout petit instant. On va voir pourquoi son destin a basculé à Aung San Suu Kyi en 1988 lorsqu'elle revient en Birmanie au chevet de sa maman. À tout de suite. 19h29, on poursuit notre débat du Club des idées d'Europe 1 consacré ce soir à la Birmanie et surtout à la figure controversée d'Aung San Suu Kyi qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur ce pays dans lequel il se passe des événements graves en ce moment. On vous en parle régulièrement sur Europe 1. À mes côtés, Didier François, spécialiste des questions internationales à Europe 1. Frédéric de Baumy est également en ligne avec nous. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la Birmanie. Il a même rencontré Aung San Suu Kyi. Il nous racontera quand et comment. Et puis Sophie de Boisseau-du-Rocher qui est chercheuse spécialiste de la Birmanie. Alors on a commencé à évoquer l'enfance et l'adolescence d'Aung San Suu Kyi, dont le destin, je le disais avant qu'on se quitte pour quelques instants, dont le destin a basculé. Didier François, c'était en 1988 lorsqu'elle revient en Birmanie pour se rendre au chevet de sa mère. Et là, elle surprend tout le monde parce qu'elle décide de s'impliquer, ça y est, dans le destin de son pays, on est en pleine révolte contre la junte.
Oui, alors c'est une des différentes juntes, une différente révolte. Oui. Effectivement, Aung San Suu Kyi décide de rentrer en politique en fondant son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, avec d'ailleurs deux anciens généraux, qui est un parti qu'on compare souvent au parti de Gandhi, donc très pacifiste, etc. Mais elle se fait évidemment arrêter très rapidement par les militaires dès 89, et à partir de ce moment-là, elle va commencer à faire de très longs séjours entre résidence surveillée, un peu de prison, des sorties très courtes. En fait, grosso modo, sur plus de 20 ans, elle va passer 15 ans en résidence surveillée. Et donc,
ce moment-là,
cette figure, c'est comme ça que se crée aussi, parce qu'elle a... On l'a vu d'abord, elle a ce passé qui lui donne cette stature avec ses parents qui sont des figures de la Birmanie. Elle a une vie aussi personnelle qui est assez dramatique, justement, puisqu'à partir du moment où elle commence à se faire arrêter, elle n'a plus le droit de sortir du pays, son époux et ses enfants qui vivent à Londres, son époux a le cancer, elle ne peut pas aller le voir.
Oui, là, vous allez un peu vite, Didier, parce que d'abord, elle est confrontée à un dilemme déchirant. Soit elle quitte la Birmanie en femme libre, mais elle n'a plus le droit d'y mettre les pieds. Soit elle reste, mais elle est enfermée. Ça veut dire seule, loin de son mari, loin de ses fils. Et à ce moment-là, elle choisit de rester. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle fait vraiment un choix extrêmement fort. Son combat est plus fort que tout.
Ouais. Oui, c'est d'ailleurs, ça culmine avec ce prix Nobel de la paix en 1991, où effectivement, on a une militante politique qui prend ses responsabilités et qui devient une figure. Alors peut-être qu'après, en Occident, on a vu peut-être que cette partie-là, et on a peut-être après justement oublié.
Oui, on va y revenir sur effectivement cette image controversée. Mais pour l'instant, restons encore sur cette période de sa vie. Pardon, Didier François, vous voulez aller très vite, mais moi je veux qu'on comprenne bien qui est cette femme et que ça nous amène un petit peu à mieux comprendre l'histoire de ce pays. Frédéric de Baumy, Didier François le disait, 15 longues années d'assignation à résidence, elle va rester dans cette maison et c'est là qu'elle commence pour les Birmans à devenir une icône.
Oh, c'est pas là qu'elle commence,
un peu avant
parce
même,
que
hein.
Ça a été presque immédiat. Hein. En fait, en 1988, on est allé en fait la chercher. Et elle a répondu à cet appel. Au départ, les manifestants, d'ailleurs, s'étaient adressés à son frère, qui était aussi donc un enfant d'Oxan. Le frère n'était pas intéressé, et donc ils ont trouvé la sœur. Et en fait, le discours du 26 août 88 auquel je faisais allusion tout à l'heure a été vu par un nombre impressionnant de personnes, et elle est devenue immédiatement la figure de référence d'un mouvement qui la dépasse. Je voudrais le dire aussi, Aung San Suu Kyi a été assignée à résidence pendant de longues années. Elle a toujours souligné aussi qu'elle n'avait pas été la seule à être privée de liberté et qu'elle a vu des conditions plutôt meilleures que nombre d'autres personnes engagées pour le mouvement pour la démocratie qui, eux, ont connu les prisons birmanes, des tortures extrêmement cruelles. Donc c'est quelque chose qu'elle-même souligne toujours.
Et donc en 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix, on l'évoquait, c'est son fils aîné qui va le récupérer, un prix Nobel qui met en lumière cette fois sa lutte aux yeux du monde, hein, Sophie Boisseau-Durocher.
Oui, alors avant de parler du prix Nobel, moi j'aimerais revenir justement sur cette période 88-90, parce que c'est, comme vous l'avez dit, une période très dense sur le plan politique en Birmanie. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir le basculement personnel d'Aung San Suu Kyi. Ce qui est intéressant, c'est que elle s'est levée pour sauver son pays, comme son père l'avait fait 45 ans plus tôt. Et lors de son mariage, elle avait demandé à son mari une totale liberté si son pays avait besoin d'elle. Et cette totale liberté, il lui a accordé. Et c'était donc, si vous voulez, un espèce de sacrifice personnel et conjugal pour se consacrer à achever l'œuvre de son père. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle fait ce grand discours en août 88 à la pagode Shwedagon, elle rentre, je dirais, symboliquement en religion, c'est-à-dire en politique. Et c'est pas par hasard que ce discours a lieu dans un des plus hauts lieux religieux de la Birmanie. C'est un point très important. Il ne faut pas oublier que c'est une Bamar, elle est donc bouddhiste, et ce qu'elle dit le jour du discours, c'est deux choses. D'une part, libérer le peuple de la dictature, ça c'est clair, c'est le message politique, mais libérez-vous de la peur. Et ça, c'est vraiment le message religieux, cette espèce de basculement irréversible, je n'ai pas peur et donc j'entre en politique. Ce qui représente, si vous voulez, pour le peuple, un énorme espoir. Alors, à partir de là, la junte est quand même obligée de composer. Ne Win, le général qui est au pouvoir depuis 25 ans, va démissionner et il va y avoir l'organisation d'élections. Pour ces élections, les partis politiques vont pouvoir se former, d'où la création effectivement de la Ligue nationale pour la démocratie. Là où vous êtes allé un peu vite, c'est qu'en 1990, il y a des élections en Birmanie.
Remportées justement par son parti, dont la junte refuse de reconnaître les élections. Ouais. Et donc elle assiste
exactement
à ça à distance.
Exactement dans la même situation qu'en novembre dernier. Donc, parce que la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, a gagné plus de 80% des suffrages déjà en 90. Et les militaires sont absolument furieux et donc déclarent qu'il y aura un coup d'État en 90. Et là, on rentre donc dans cette période d'assignation à résidence ou d'emprisonnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir également qu'en dépit de son allure très frêle, féminine, délicate, Aung San Suu Kyi est qualifiée de papillon d'acier. Elle a une force intérieure qu'elle tire du bouddhisme qui est impressionnante. Et pendant toutes ces années d'assignation à résidence, elle va énormément méditer, au-delà de travailler sur son programme politique, pour précisément être forte intérieurement et se libérer de la peur.
Une force intérieure dont elle a dû avoir sacrément besoin quand elle a appris que son mari était malade, atteint d'un cancer. Il va décéder sans qu'elle puisse lui dire au revoir. Et d'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, cette histoire d'amour, elle a été adaptée au cinéma dans le film The Lady de Luc Besson. Hein.
Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes.
Madame, nous sommes convaincus que vous seule avez la capacité de faire de la Birmanie un État démocratique.
Nous devons mettre de côté nos divergences. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure.
Évidemment, ce film, il est très romancé dans la caméra de Luc Besson, mais il faut dire aussi que l'histoire d'Aung San Suu Kyi, elle est très romanesque. Hein, Frédéric de Bomy.
Je crois.
Sophie Boisseau-Durocher, oui, allez-y.
Oui, alors, simplement un point, c'est que son mari, son histoire d'amour avec Michael Harris est très romanesque. Malheureusement, je crois qu'il y a une grande faiblesse et une grande faille dans la vie d'Aung San Suu Kyi, c'est que comme elle est partie en Birmanie en 88, ses enfants étaient très jeunes et elle ne les a pas élevés. Et peut-être qu'un de ses plus grands échecs, c'est de voir qu'aujourd'hui, ses enfants sont incapables de reprendre le le flambeau politique. Et là, je crois que c'est une souffrance absolument colossale. Un de mes amis m'a dit avoir assisté à sa remise de prix Nobel quand elle a pu le récupérer et qu'elle avait eu un regard quasiment désespéré en voyant ses deux fils un peu seuls, un peu gênés sur les premiers rangs du théâtre où elle a reçu ce prix Nobel.
Elle aurait rêvé qu'il soit ses héritiers, oui.
Voilà. Donc voilà, et on peut repartir maintenant peut-être sur effectivement ce prix, le prix Sakharov qui lui a été remis avant le prix Nobel, 90-91, une énorme charge qui pèse sur ses épaules. Le niveau d'attente devient énorme. Ça a un impact positif parce que les militaires se savent observer, mais ça a aussi un impact négatif, c'est que les pays occidentaux réalisent que les militaires s'en moquent beaucoup de cet Occident et que donc ils maintiennent leur oppression sur l'opposition et Aung San Suu Kyi.
Mais en 2007, il y aura la révolution de Safran, hein, Didier François, avec pour la première fois des moines, des bonzes qui descendent dans la rue. Ça, c'était une image tout à fait inédite, hein,
oui, alors,
aux côtés de la population.
Pardon ?
Aux côtés de la population.
Oui, tout à fait. Ça a été, le mouvement qui a été le plus vu à l'extérieur. Ça a permis, c'est vrai que ces images de moines en tenue de bonzes dans les rues, et surtout la répression décidé par les militaires a fait basculer l'opinion publique internationale. Et donc oui, ça a été le mouvement qui a permis, qui a déclenché le fait que l'armée finalement soit obligée un peu de lâcher du lest et organise cette nouvelle constitution qui à la fois lui permettait de garder le pouvoir en gardant une partie des députés qui étaient 25% des députés à l'Assemblée nationale et en gardant aussi un certain nombre d'agents au gouvernement, mais aussi en lâchant un peu de lest et ouvrant cette expérience de démocratisation qui avait commencé donc à partir de ce moment-là.
Alors, pendant cette révolution de Safran, elle est toujours sous résidence surveillée. Elle est finalement libérée en 2010. On se souvient de ces images, ces milliers de partisans en liesse, son sourire, les fleurs de frangipanier dans les cheveux. Pourquoi cette libération à ce moment-là, Frédéric de Baumy ?
Je voudrais revenir sur deux choses, si vous le permettez, juste avant, sur des parallèles à faire, en fait. On a parlé de la mobilisation de 1988, on a parlé de la mobilisation de 2007. Sophie Boisseau-Durocher faisait un parallèle entre 1988 et aujourd'hui par rapport aux élections. Il y en a un à faire, effectivement, c'est que les militaires, dans les deux cas, n'ont rien vu venir. Ils n'ont pas vu venir le résultat des élections. Et s'ils l'ont pas vu venir, s'ils ont pas vu venir qu'ils allaient perdre les élections, c'est parce qu'ils ont dans la tête l'idée qu'ils sont les garants de l'unité et de la sécurité du pays, et que du coup, il serait logique que les gens votent pour eux. Or, à chaque fois qu'il y a eu des élections libres et transparentes, ils ont perdu dans les grandes largeurs, ils ont perdu en 1988, ils ont perdu aujourd'hui, ils ne l'ont pas vu venir. Donc ça, c'est un premier parallèle. L'autre parallèle que je voulais faire, c'est entre 2007, la révolution Safran et sa répression, et aujourd'hui. En 2007, il y a eu des manifestations, il y a eu une répression. La répression de 2007 n'a pas été aussi sanglante que celle de 1988. Il y a eu des morts, il y a eu une trentaine de morts au moins. Mais ça n'a pas été aussi sanglant parce que il y avait la tension internationale et dans ce cadre-là, les militaires étaient occupés à traquer les journalistes locaux et internationaux pour empêcher les images de sortir. Ils essayaient aussi, en fait, de faire des arrestations la nuit. Il y avait des raids dans les monastères, puisque les moines, effectivement, étaient à la tête du mouvement. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a cette attention internationale, il y a une tentative de maîtriser Internet, il y a une tentative d'arrêter les gens la nuit, et ça se produit. Il y a eu de nombreuses arrestations. Il y a eu aussi des arrestations déjouées ces dernières semaines par les citoyens, qui, par une pratique de vigilance nocturne partagée, qui a pu parfois freiner les arrestations, qui hélas ne les a pas toutes empêchées. C'est pour dire que le maintien de l'attention sur ce qui se passe aujourd'hui est une protection certes pas absolue, mais le maintien de l'attention internationale protège dans une certaine mesure les manifestants aujourd'hui.
Alors vous nous amenez très rapidement effectivement sur ce qui se passe aujourd'hui. On va y venir bien sûr parce que c'est très intéressant et c'est pour ça aussi qu'on a organisé ce débat. Donc elle est libérée, elle a enfin le droit à cette liberté qu'elle n'a pas eue pendant 15 ans. En 2015, il y a des élections législatives, je vais avancer un petit peu, qui marquent sa victoire et celle de son parti, mais qui marquent aussi le début d'une scission en Birmanie. La communauté musulmane est exclue des investitures. Hein. Didier François.
Oui, tout à fait.
Alors, vas-y.
Frédéric de Momie, allez-y.
Non, mais alors, en fait, quand Aung San Suu Kyi arrive aux affaires, il y a les élections de 2015, au début 2016, elle peut être chef de gouvernement, de facto, pas par son titre, mais de facto, elle est chef de gouvernement. Or, il y a un climat islamophobe à partir de 2012 qui est très prononcé en Birmanie et très encouragé par des bons extrémistes, dont le fameux Wiratu, qui sont vraiment des bons incendiaires. Et elle arrive dans ce climat-là. Elle sait que l'islamophobie de l'armée est nette, que la xénophobie de la population est hélas également largement partagée. Et donc, pour garder sa popularité, elle décide de ne pas confronter ou de ne pas confronter immédiatement cette question-là. Et donc, en gros, elle va se taire par rapport aux extrémistes bouddhistes pendant un temps. Et elle va faire un peu profil bas sur cette question. Sachant que parmi ses conseillers les plus proches, il y a à ce moment-là un avocat musulman, Kony, qui certainement comprend la stratégie, puisqu'il ne la quitte pas, il continue à travailler avec elle, dans l'objectif, qui est l'objectif de Aung San Suu Kyi, qui est l'objectif de Kony, c'est la réforme de cette constitution de 2008, voulue par les militaires, qui fait que, par exemple, Aung San Suu Kyi est chef de gouvernement, mais elle n'a pas la main sur des ministères clés qui sont l'intérieur, la défense, les frontières.
Je voudrais qu'on avance un tout petit peu, si vous le voulez bien, Frédéric de Baumy, même si c'est passionnant, mais sinon on ne va pas arriver à la fin de ce débat. Petit à petit, le monde découvre que sous ce visage angélique que vous évoquiez, se cache aussi une certaine lâcheté, parce qu'on apprend qu'elle a fermé les yeux sur les massacres perpétrés par l'armée birmane contre les Rohingyas, cette minorité musulmane, justement, Didier François.
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit de la lâcheté. En tout cas, moi, je ne suis pas dans la tête d'Aung San Suu Kyi et je serais incapable de répondre. Peut-être que nos deux invités pourraient. En revanche, si on regarde les faits, on voit que, effectivement, l'armée birmane commence des premières opérations contre les Rohingyas en 2012. Elle reste non seulement silencieuse, mais en 2013, l'année d'après, c'est la première fois qu'elle participe à un défilé militaire aux côtés des généraux. Et elle gagne les élections de 2015. Et on a la même chose en 2017. C'est-à-dire que là aussi, elle se tait. Plus encore, elle ne défend pas les Rohingyas, mais elle accuse la communauté internationale d'être vraiment humiliée de parti pris, et elle va ensuite à la Haye,
devant la Cour internationale de justice,
pour défendre les militaires. Donc, il y a quand même... Je ne peux pas me mettre à la place de ces calculs, mais on voit bien que si on regarde les faits, à chaque fois, en tout cas, elle bascule du côté du choix... De ne pas attaquer de face la question de l'islamophobie ou en tout cas de la lutte contre les Rohingyas déclenchée par l'armée, ce que d'ailleurs la communauté internationale les accuse de génocide, de nettoyage ethnique, et elle défend malgré tout à la fois son pays, son gouvernement et les militaires.
Vous voulez réagir, Sophie Boisseau-Durocher, je pense.
Oui, alors je voudrais réagir parce que je crois qu'on fait vraiment l'erreur de parler systématiquement des Rohingyas et de la question des Rohingyas au Myanmar sans l'intégrer dans le contexte national. Et donc, si vous voulez, on arrive à des malentendus qui sont quand même très graves. Il faut bien comprendre que les Rohingyas, c'est d'abord un problème hérité de la colonisation britannique. C'est le premier point, c'est une patate chaude, je dirais, que les Britanniques ont laissé sur place. Aucun gouvernement n'a véritablement traité cette question et en 1982, la loi sur la citoyenneté les a rendus apatrides. Personne s'en est occupé jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi. On a dit elle a créé ce poste de conseillère d'État en mars 2016, et je rappelle quand même qu'en août 2016, elle a créé une commission consultative pour les Rohingyas. Et c'est une avancée colossale. Personne n'en parle jamais.
Vous l'avez fait. En tout cas, ce qui est important, pardon, je vous coupe encore, mais ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu une énorme incompréhension, pour le moins, de la communauté internationale. Elle est devenue persona non grata. On a retiré ses portraits, par exemple, un peu partout dans le monde. Je voudrais qu'on ait une autre voix, parce qu'on est en ligne ce soir avec Yin. Bonsoir, Yin.
Bonsoir.
Vous êtes birmane, vous vivez en France depuis plusieurs années, vous avez appris le français en Birmanie. Est-ce qu'à vos yeux, Aung San Suu Kyi reste aujourd'hui encore une icône ?
C'est une bonne question. Oui. Donc, pour nous, les Birmans, Aung San Suu Kyi incarne une icône, une héroïne pour tous les Birmans. Comme vous savez, c'est une femme qui a renoncé sa vie de famille et fait le choix de sauver la vie de plusieurs familles qui devaient vivre sous la junte militaire. Donc c'est une personne à présent jusqu'à aujourd'hui qui reste une icône.
Et les Birmans, lui pardonnent ce qu'on évoquait à l'instant, ce qu'on a pu appeler son silence coupable sur les Rohingyas?
Alors, à mon avis, oui. Pourquoi? Parce que, à mon avis, les Birmans, on a cette vision de voir les choses. Par exemple, là, quand elle a eu le pouvoir... on croit que ce véritable pouvoir, elle ne l'a pas vraiment, parce qu'il y a toujours les militaires derrière elle. Donc, elle ne pouvait pas, même si elle a voulu changer les choses, rendre le pays démocratique, mais à cause de cette communication entre les militaires, et elle n'a pas pu faire des choses comme elle voulait, et comme elle voulait garder aussi cette communication...
Elle n'avait pas tout à fait les mains libres, hein, c'est ça ce que vous nous dites. Hein.
Exactement, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça, on voit les choses, donc les Birmans, enfin nous, ça reste toujours pardonnable pour nous.
Merci beaucoup Yin. On en arrive donc à l'histoire récente, hein, parce qu'on va en arriver aussi à la fin de cette émission, malheureusement. 1er février de cette année, coup d'État de l'armée, elle est de nouveau arrêtée, à 75 ans, elle est de nouveau prisonnière politique. Est-ce que c'est la fin de sa carrière politique, et qu'est-ce que ça va donner sur l'avenir de la Birmanie?
Ben, certainement pas. Je pense que la réponse de la jeune auditrice est intéressante. D'ailleurs, ça répond aussi à la... Enfin, on peut avoir le débat, mais elle a gagné toutes les élections qui ont suivi à chaque fois le problème de ses liens avec les militaires. Donc, je pense que pour la population birmane, c'est effectivement un rempart, une alternative, la seule quasiment, en tout cas une figure derrière laquelle ils ont envie de se mobiliser. Et je pense que ça renvoie à son discours sur la question de la peur. Justement, je crois, il y a une génération, on le voit dans les manifestations, c'est quand même assez jeune, qui ont eu 10 ans d'expérience quand même beaucoup plus démocratique que ce qu'il y a eu avant, peut-être une envie de continuer, et qui se sont libérés de cette peur à l'exemple de leur dirigeante. Donc, encore une fois, c'est peut-être de la réelle politique, mais les gens ont besoin de pouvoir suivre des dirigeants réels, pas des dirigeants qu'on aurait mythifiés ou qu'on aurait mis sur un piédestal. Voilà, c'est une vraie dirigeante qui a fait ses choix, qui est avec son peuple, avec ses qualités et ses défauts. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera très utile parce qu'ils vont en avoir besoin.
Bon, mais écoutez, on suivra ça évidemment, notamment avec vous sur Europe 1, évidemment, Didier François, notre spécialiste des affaires internationales, sachant qu'en ce moment, la communauté internationale est très remontée, que c'est une actualité qui bouge beaucoup. Il y a des sanctions en vue, on va s'attaquer aux intérêts économiques et financiers des militaires notamment. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. Frédéric de Baumy, Sophie Boisseau-Durocher et Yin, qui est birmane et qui était en direct avec nous. Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.